encore les chansons de Frozen en tête maintenant à cause de ça. C'est insupportable.
Ah mais moi, de toute façon, je me suis remis les chansons, je les ai réécoutées en boucle pendant une partie de la semaine, que j'ai alternée avec Hamilton quand même, parce qu'il faut pas rigoler.
Je me doute. Bienvenue à tous sur le canapé de Popcorn Therapy. Servez-vous une tasse de thé glacé ou une citronnade et c'est parti pour une session blabla autour des séries et du cinéma.
Ici, pas de prise de tête, ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et aujourd'hui, pour notre 4e épisode, on vous propose un popcorn zapping. Un épisode garanti sans spoiler pour faire un tour de toutes les nouveautés que l'on a vues au cinéma ou chez nous récemment. Pour vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qu'on recommande. Peut-être échanger s'il y en a une qui a vu une chose que l'autre n'a pas vue, lui conseiller ou pas. Voilà.
C'est ça. Et on va commencer du coup par ce qu'on a vu au cinéma, puisque les cinémas ont réouvert.
Oui, ils ont réouvert et il y a du coup quelques nouveautés. À la fois les films qui sont sortis juste avant le confinement, comme En Avant dont on a parlé dans le dernier épisode.
Oui.
Mais il y en a aussi d'autres qu'En Avant, évidemment. Et puis, il y a aussi des nouveautés qui sont sorties la semaine de la réouverture. Mais pour le premier film qu'on allait voir toutes les deux, c'est un film qui était sorti en mars.
Oui,
je crois.
C'est ça, je crois.
Donc, c'est Radioactive par Marie... Alors, je ne sais pas si on dit Marianne ou Marjane.
Je crois que c'est Marjane, mais j'ai un petit doute. On aurait peut-être dû vérifier avant.
Bon, on va dire Marianne Satrapi. C'est un biopic sur Marie Curie qui commence à sa rencontre avec Pierre Curie jusqu'à sa mort et qui suit toutes ses découvertes autour de la radioactivité.
Exactement.
Alors moi, j'ai bien aimé. Je ne me suis pas ennuyée, c'était prenant. Après, je n'ai pas tout aimé. Il y a des choses que j'ai bien appréciées et d'autres moins. Ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, en amont de ça, je connaissais déjà les grandes lignes de la vie de Marie Curie. Mais c'était totalement par hasard. Genre, il y a 3 ans, je n'aurais rien connu, à part qu'elle avait fait des découvertes sur radioactivité. Mais il s'est trouvé que, je ne sais plus, j'ai vu des détails sur elle dans des expositions diverses et variées. Et puis, j'ai entendu un podcast aussi qui parlait de sa vie. Et donc, du coup, j'ai bien aimé retrouver tous des petits détails que je connaissais déjà dans le film. Donc, c'était chouette, même si j'ai appris quand même quelques choses que je ne savais pas. J'ai beaucoup aimé du coup la manière dont Marie Curie est présentée, vraiment avec une énergie assez folle quoi, et vraiment un très fort caractère. Oui. Elle n'est pas vraiment sympathique en fait.
Non, pas du tout.
Mais j'ai beaucoup aimé du coup l'actrice qui l'incarne, Rosamund Pike. Et j'ai réalisé, sa tête me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à la remettre. Et en fait, je l'ai vue dans Orgueil et Préjugés.
Oui.
Donc ce film qui était avec notamment Keira Knightley et où elle joue la sœur Jane Bennett. Voilà, je l'avais vue là-dedans. Mais elle est surtout connue pour Gone Girl de David Fincher.
Ouais, j'ai vu les deux films, mais j'avoue que je ne l'ai pas du tout reconnue. Ça veut dire qu'elle joue bien aussi. Hein. Ouais. Je n'avais pas du tout repéré. Effectivement, son visage me disait vaguement quelque chose, mais c'est tout.
Ouais, c'est une super performance quoi, dans ce film. Et j'ai bien aimé aussi le duo avec Pierre Curie.
Oui.
Même si j'étais moins convaincue au début, je sais pas, je m'attendais à un autre caractère pour Pierre Curie, je sais pas pourquoi, je m'étais fait quelque chose en tête pour ce personnage, mais finalement ça fonctionne bien et voilà, même si j'étais pas totalement à fond, ça fonctionne bien quoi. Donc voilà, et j'ai surtout beaucoup aimé la réflexion sur qui est vraiment au cœur du film, sur la responsabilité morale des scientifiques, sur leurs découvertes, puisqu'évidemment les découvertes de la radioactivité, ça amène énormément de bonnes choses, mais ça amène aussi des choses assez terribles et très très dangereuses. Donc c'est un sujet que moi je trouve personnellement fascinant et que le film explore avec des scènes assez marquantes. Donc ça c'est un vrai bon point pour moi.
Moi aussi j'ai beaucoup aimé justement cette réflexion sur la responsabilité qu'ont les scientifiques, dans plein de petits passages, soit dans les discours du coup de Pierre et de Marie Curie et dans les scènes que tu dis marquantes, donc on va pas spoiler. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils en parlent et je trouve que c'était vraiment un bon point. Ça a amené un plus au film.
Ouais, je suis d'accord.
Moi, de mon côté, du coup, dans les points que j'ai aimés, alors j'ai une formation de chimiste et j'étais à l'université Pierre et Marie Curie, donc on s'en doute.
J'ai pas fait le lien, mais c'est vrai.
Ouais, c'est... Du coup, ouais, le scénario, bah, aucune surprise, je connais bien la vie de Marie Curie. J'avais même lu sa biographie écrite par sa fille, Irène Joliot-Curie, qu'on voit dans le film aussi. Donc, je connaissais bien, mais après, ça m'a fait plaisir de retrouver tout ça. J'ai apprécié la manière aussi dont est montrée Marie Curie en tant que femme au fort caractère. Même si, ouais, comme tu dis, elle est quand même hyper antipathique, quoi. À des moments, tu te dis, mais... Oh là là, mais comment elle est
Calme-toi, Marie.
insupportable! Insupportable. Après, c'est bien de l'avoir montré avec ses qualités et ses défauts, parce qu'on a tendance à parler que de ses qualités, parce qu'effectivement, elle a fait beaucoup pour la science et puis en tant que femme. Mais du coup, j'ai trouvé ça cool qu'on montre aussi que, voilà, elle avait bah, des défauts comme tout le monde. Et je trouvais que les moments avec Pierre, justement, permettaient de la voir sous un nouvel angle. Enfin, je me suis plus attachée à elle, on la voyait un peu plus vulnérable. Et du coup, c'était sympa.
Ouais, non, c'est sûr, c'est vraiment plein de facettes, quoi. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas facile à vivre, quoi. Après, malgré tous ces bons points et le fait que, ben, en soi, j'ai aimé le film, j'ai trouvé le montage et le rythme un peu étrange. En fait, j'ai eu du mal à mettre le point dessus pendant le film, mais après, je me suis dit que ça m'a presque donné l'impression d'une mini-série qui a été condensée en un long métrage. Donc, en gros, j'aurais préféré avoir la même histoire, le même format, le même style, mais sur un truc plus long, en fait, par exemple en 3 épisodes d'une heure ou d'une heure et demie, enfin, où ça prend un peu plus le temps, parce que j'ai trouvé que des fois c'était un peu saccadé et ça enchaînait très vite, notamment dans la première partie du film, et j'aurais aimé passer plus de temps sur certaines périodes, ou alors qu'ils zappent complètement certains aspects, en fait, où ça fasse un peu moins patchwork, quoi, parce que ils essayent d'aborder vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et du coup, parfois, j'ai trouvé que ça faisait un petit peu... C'était pas très fluide dans les enchaînements, quoi.
Alors moi j'ai pas du tout repéré ça, ça m'a pas du tout dérangé, j'ai pas remarqué ce rythme étrange et ça, en tout cas sur le moment ça m'a pas percuté. Peut-être que là si je le revois je me dirais ah oui, mais pas du tout. Par contre moi ce que j'ai moins aimé c'est qu'on sent quand même que la réalisatrice, donc Marianne Satrapi, a une formation de dessinatrice. Et du coup dans certaines scènes, dans certains passages on le voit, c'est un peu moins réaliste, c'est plus dans son univers. Et ça m'a un peu dérangée parce que je m'attendais vraiment à un film quand même très réaliste, un biopic, donc ancré vraiment dans la réalité. Et du coup il y a des passages où j'ai pas adhéré, voilà. Après ça reste un très bon film pour moi, j'ai passé vraiment un bon moment, je me suis pas ennuyée. Je le recommande hein, si vous avez envie d'en savoir plus sur la vie de Marie Curie ou si vous le savez déjà et que ça vous intéresse de parler de ça. Puis, pour plein d'autres petites raisons, mais c'est pas forcément un film que je reverrai de sitôt.
Oui, bah moi je suis vraiment sur la même longueur d'onde que toi. C'est pas un film que j'ai hâte de revoir. Après, je le conseille quand même.
On passe pour un deuxième film que toi tu as été voir, mais pas moi. Donc là, je te fais 100%
Oui.
confiance sur ce que tu dis.
Ouais, donc j'ai continué dans la veine des films historiques, puisque je suis allée voir un autre biopic, qui celui-ci est sorti là, la semaine de l'ouverture des cinémas. Donc c'est L'ombre de Staline, par Agnieszka Holland. J'espère que je prononce bien. Donc une réalisatrice polonaise. Et donc c'est aussi un biopic qui là suit Gareth Jones, qui est un jeune journaliste gallois pendant les années 30. Donc en fait, il se rend en Russie en 1933 pour tenter de décrocher une interview avec Staline et surtout pour mener son enquête et comprendre comment le régime soviétique réussit-il un tel miracle économique et industriel, puisqu'on est en plein dans la période de la propagande soviétique qui laisse croire au monde entier que c'est que derrière la révolution bolchevique, il y a un espèce de miracle économique où le régime soviétique essaie de se vendre comme un truc idéal, quoi. Et donc ce journaliste veut en savoir plus, comment Staline réussit ce miracle. Et son enquête le mène jusqu'en Ukraine, où il découvre les dessous du régime de Staline. 3 petits points. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, même si je ne veux pas vous en dire trop sur ce qu'il découvre, mais enfin, c'est l'histoire, quoi. Donc, à partir du moment où vous avez été au lycée, où vous avez eu des cours d'histoire, a priori, vous savez ce qui se passe en Ukraine à ce moment-là. Bon, l'ombre de Staline, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi.
Oui, c'est sûr.
Donc, c'est pour le coup un film que j'ai énormément aimé. J'ai été à fond dedans du début à la fin. C'est vraiment hyper prenant, malgré le fait qu'il est long quand même. Hein. Il fait 2h20.
Ah oui.
Mais bon, après, c'est totalement le genre de film que j'apprécie. Encore plus quand c'est un film historique qui suit une genre d'enquête, donc ça prend parfois des aspects de thriller. On suit vraiment le personnage principal qui est très attachant aussi, c'est un journaliste. Bah, du coup, ça, c'est marrant le parallèle avec Marie Curie, parce que c'est pareil, c'est un caractère un peu fort, quelqu'un qui repousse un peu les limites parce qu'il croit à fond dans ce qu'il fait, quoi. Donc, c'était marrant de voir les deux à quelques jours d'intervalle, quoi. Et donc, j'ai aimé tous les la galerie de personnages, en fait, et du coup, c'était pas mal d'acteurs que j'aime bien aussi. Donc, c'est James Norton qui incarne Gareth Jones. Et je me suis rendu compte que je l'avais vu dans Les quatre filles du docteur Marsh, la dernière adaptation.
Oui.
Et il joue John, celui qui épouse Meg,
d'accord,
qui était interprété par Emma Watson. Donc voilà, donc plutôt beau gosse hein, quand même, il est pas mal.
Ça va, ça va.
Il y avait aussi Vanessa Kirby, que j'aime beaucoup, qui interprétait la princesse Margaret dans les deux premières saisons de The Crown. Donc encore un film historique pour elle. Et puis, je voulais quand même mentionner aussi Peter Sarsgaard, que je ne connaissais pas, et qui joue le rôle de Walter Duranty, qui est un autre journaliste, sur lequel je ne dirai pas trop de choses pour ne pas spoiler l'histoire. Mais voilà, et visuellement, je l'ai trouvé sublime. Il y a des images très marquantes. Là, pour le coup, c'est du cinéma vraiment dans le sens grand cinéma, quoi, avec des scènes, avec des grands espaces, etc. Enfin bref, c'est très très beau. Juste un avertissement, il y a des scènes très dures, surtout dans une partie du film qui change complètement de rythme et où du coup il y a toute une partie du film qui est très glaçante dans tous les sens du terme, puisqu'on se retrouve en Ukraine en plein hiver, donc vous pouvez imaginer. C'est vraiment vraiment pas un film à pop-corn. Donc je vous conseille de ne rien manger pendant ce film. Je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est pas pour tous les publics. Faut être averti qu'il y a des moments qui sont durs. Encore une fois, c'est une thématique qui m'intéresse énormément, autour de la propagande, l'importance de la presse et des horreurs du totalitarisme. C'est un très beau film, quoi. Donc, je le conseille, pas pour tous, mais voilà, si vous aimez ce genre de film historique, un peu lourd quand même dans son sujet, je le conseille.
Ok.
Je ne sais pas si je t'ai donné envie ou pas.
J'ai pas envie de film dur en ce moment. J'ai plus envie de légèreté, ouais. Donc je pense pas que j'irai le voir. Même non, si non, là, ça coup, a l'air non. d'être un bon film. Je pense que si un jour il est sur Netflix, je le regarderai potentiellement.
Ouais. Ouais, il faut le regarder à la rigueur avec un chocolat chaud, mais...
C'est ça.
Donc sinon, il y avait, à part les nouveautés, il y a des retours à l'affiche, puisque comme il y a assez peu de nouveautés en ce moment, quand même, bah, les cinémas remplissent leur programmation avec des films plus ou moins anciens, plus ou moins récents, qui remettent à l'affiche. Et du coup, ça permet de rattraper, de revoir ou de voir des films qu'on avait loupés au moment de la sortie. Et c'était ton cas, t'as pu aller voir Le Chant du Loup ?
Ouais, c'est ça. J'avais raté l'occasion d'aller le voir alors qu'avec mon copain Thibault, on voulait vraiment y aller. Donc du coup, on a pu le découvrir. Donc l'histoire générale, en fait, c'est qu'on suit un équipage dans un sous-marin militaire, et plus particulièrement Chaussette, le marin Chaussette, qui est ce qu'on appelle une oreille d'or. Donc en fait, son rôle, c'est de sonder l'océan à la recherche de bateaux, torpilles, sous-marins, etc. Uniquement grâce à son ouïe, en écoutant le bruit de l'eau. Et alors déjà, je trouvais ça captivant parce que j'étais même pas au courant que ça existait. Et je pensais qu'il y avait des radars qui détectaient, comme avec les bateaux, ou je sais pas. Je m'attendais pas à ça. Et pendant le film, je me rappelle, j'ai regardé Thibaut et je fais « Mais ça marche vraiment comme ça ?» Hyper naïvement. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant d'apprendre des choses là-dessus. Et on s'en suit alors, un conflit militaire. C'est un peu un film de guerre, même si les batailles se font plus... Il y a beaucoup plus de stratégie. Et puis c'est pas des soldats qui vont sur le terrain, c'est à coups de torpille entre sous-marins, j'ai envie de dire, mais voilà. De manière générale, moi ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment adoré. Au départ, j'avais envie d'aller le voir, mais surtout pour faire plaisir à Thibaut, parce que un film avec des sous-marins, je me suis dit, oh ok, d'accord, si vous voulez, tu veux. Finalement, j'y suis allée parce que, bon, pour lui faire plaisir, mais aussi parce que j'adore les acteurs, que ce soit Mathieu Kassovitz ou Reda Kateb, que j'avais vu dans Hors Normes, entre autres, dont je parlerai un tout petit peu après. Et au final, j'ai appris vraiment plein de choses. L'ambiance est hyper prenante. J'ai rarement été aussi scotchée sur mon siège à fixer. J'en ai oublié mon pop-corn. On est vraiment captivé du début à la fin. Le scénario est incroyable. Il est vraiment bien ficelé. On est surpris quand même. Enfin, allez-y, je vous le recommande à 100%.
Ouais, bah moi je l'avais vu au moment de la sortie. Je me demande même si je ne l'avais pas vu en avant-première, puisque les cinémas Gaumont-Pathé proposaient des séances spéciales pour ce film. Et voilà, donc mon souvenir est plus ancien, mais je l'ai adoré aussi. Et moi, je crois que c'est un des films qui m'a permis aussi de découvrir François Civil, qui fait du coup le personnage principal. Et je l'ai revu dans plein d'autres films depuis, et je l'adore cet acteur. Vraiment, c'est devenu un de mes nouveaux chouchous. Mais même Reda Kateb, pareil, je l'avais découvert dans ce film avant de voir Hors Normes. Je sais qu'il avait fait d'autres films avant, mais que je n'avais pas vu. Et il a tellement un rôle génial dans Le Chant du Loup. Enfin, il a un charisme de fou, quoi. Donc, ouais, j'adore ce film aussi.
Bon, parfait. Donc toi, tu as été voir deux autres films.
Oui, alors, donc un film que j'avais loupé au moment de sa sortie il y a 2 ans, qui s'appelle Call Me By Your Name. C'est un film qui était sorti en 2018. Et donc, le pitch, c'est... Ça se passe donc pendant l'été 1983. Et on suit Elio, qui a 17 ans, dans la villa familiale avec ses parents, dans la campagne idyllique du nord de l'Italie. C'est vraiment un contexte parfait. Et comme tous les étés, son père, qui est professeur de culture gréco-romaine, reçoit un étudiant en résidence pour travailler avec lui. Et cette année, c'est Oliver, un bel Américain qui trouble le jeune Elio. Voilà, donc c'est une romance. Et j'ai vraiment adoré. Mais alors vraiment, je crois que c'est mon coup de cœur là, de ce retour au cinéma. J'ai adoré l'ambiance. Alors, ça n'a rien à voir avec les autres films que j'ai vus aussi cette semaine, donc c'est cool. Là, c'est complètement l'opposé de L'Ombre de Staline. C'est une ambiance très chaleureuse, c'est une sorte d'été idéal dans lequel je pouvais complètement me projeter. Et j'ai adoré l'écriture des dialogues, l'interprétation des acteurs, elle est juste parfaite, c'est très subtil et c'est très fin dans la représentation de l'amour et des émotions adolescentes, puisqu'on est vraiment centré sur le personnage d'Elio. Qui est interprété par Timothée Chalamet, qui est un acteur que j'aime beaucoup. C'est très sensuel, sans être lisse, quoi. Il y a des moments quand même assez crus, mais sans être outranciers. C'est très réaliste, quoi. Vraiment très, très réaliste, malgré le contexte très idyllique. Ça reste crédible, quoi. Et donc là, Timothée Chalamet, en plus, l'entendre jouer à la fois en anglais, en français, en italien, c'est juste délicieux. Et du coup, bah, le Oliver, l'Américain, est interprété par Armie Hammer, qui est plutôt sexy dans ce film. Et je l'avais déjà beaucoup aimé en duo avec Henri Cavill, mon autre chouchou. C'était Agent très spéciaux, Code Uncle, pour ceux qui l'avaient vu à l'époque. Je sais qu'il n'a pas eu un grand succès ce film, mais moi, j'avais beaucoup aimé.
J'ai pas vu.
Et en fait, ouais, je le conseille vraiment pour un moment... ouais, c'est une romance, quoi, donc c'est vraiment très, très agréable, en fait, à regarder. Ça fait pleurer un petit peu, donc je préviens, mais voilà. Et j'ai appris, du coup, après l'avoir vu, qu'il préparait une suite, ce qui m'a laissé un peu perplexe. Mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler la fin, mais voilà. Donc apparemment, on peut attendre un Call Me By Your Name 2, donc...
D'accord.
Mais je le conseille à fond et on est pile dans la bonne époque pour se regarder un film comme ça, donc
ouais,
un
lui,
bon film d'été.
Lui, j'ai vu la bande-annonce et je pense qu'il y a moyen que j'aille le voir.
Ouais, je le conseille et je pense que ça peut te plaire en plus. Et donc un autre petit mot sur un autre film que je suis allée voir. Les cinémas Pathé Gaumont ressortent le premier Harry Potter en 4DX. Donc... je ne vais pas parler du film en lui-même parce que je pense que c'est pas la peine de parler de Harry Potter à l'école des sorciers. Hein,
je pense que ça devrait aller.
Du coup, évidemment, j'en ai profité et je suis allée le voir. Et du coup, depuis, j'ai vu que là, ils viennent de sortir le deuxième aussi, un KDX. Donc, je ne sais pas s'ils veulent tous les faire, mais...
tu vas tous aller les voir, je suppose.
Je vais essayer, on va voir, mais je vais essayer parce que j'aime bien la 4DX, ça dépend avec quel film, mais c'est pas la première fois que je teste la 4DX, donc je voulais juste en parler rapidement pour ceux qui, qui, qui l'ont jamais testé pour savoir exactement à quoi s'attendre, pour savoir si ça peut vous plaire ou pas. Alors déjà, première chose à savoir, c'est que c'est pas forcément en 3D. Et dans le cas de Harry Potter, c'est pas en 3D. Donc on n'a pas de lunettes 3D. Donc déjà, pour ceux qui sont allergiques aux lunettes 3D, c'est un bon point. On peut profiter de la 4DX sans que ce soit forcément en 3D. Par contre, la 4D, du coup, c'est le fait qu'on est dans des sièges qui bougent, dont les mouvements sont synchronisés avec ce qui se passe à l'écran et où il y a plein d'effets. Donc, il y a des effets de vent, d'eau, d'odeur, de chaleur. Enfin, c'est vraiment une expérience multisensorielle, comme on dit. Il y a des films pour lesquels c'est très fatigant parce que ça peut bouger beaucoup. C'est pas trop le cas d'Harry Potter quand même. Il y a des scènes qui bougent bien, mais on a quand même le temps de se reposer entre deux scènes qui bougent bien. Donc ça, c'est quand même un bon point. Par rapport, je me souviens d'avoir vu Aquaman en 4DX et c'était affreux. Juste affreux. En plus, on se prenait plein d'eau. Donc voilà, dans Harry Potter, ça va, on s'en prend moins aussi. Mais c'est vraiment sympa, c'est très immersif. Il y a des trucs très subtils. Par exemple, quand on est dans le Poudlard Express, on a juste des tout petits mouvements du siège, comme si on était dans un train. Et c'est chouette, quoi. Donc voilà. Et je conseille aussi, du coup, pour tous ceux qui sont peut-être en manque de parc d'attractions en ce moment, parce que ça fait quand même une petite ambiance montagne russe, parce qu'il y a des fois, pour certaines scènes, ça bouge beaucoup quand même. Donc,
alors que donc, moi, voilà. J'adore les parcs d'attractions, mais je ne supporte pas la 4DX. Je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans le film. À chaque fois, je suis en train de me dire ah, ça va bouger, ah, je me prends de l'eau. Du coup, je suis déconnectée pendant 2 minutes. Je suis là en train de me dire ah, j'ai de l'eau qui coule. Ou... Enfin, je sais pas, j'arrive pas, je rentre pas dans le film quand il y a ça.
Ouais, non, mais je comprends. Découvrir un film en 4DX, je trouve ça pas top. Par contre, un film qu'on connaît bien et sur lequel ça rajoute une couche supplémentaire, c'est rigolo. Donc, je le mentionnais parce que là, dans les salles 4DX de Pathé Gaumont, ils font des tarifs très avantageux là pendant pour la reprise. Donc si vous avez envie de tester, c'est le bon moment, quoi. Voilà, petite pub gratuite pour
pour les grands groupes. Mais du coup, on va citer d'autres grands groupes. On a aussi Gaumont Pathé, UGC, le MK2 et plein de salles indépendantes. Et en fait, chacun fait sa propre programmation. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que le cinéma de votre quartier ou de votre cinéma préféré propose. Nous, on a fait chacune un petit best-of des films qui repassent, donc Marjo à Marseille et moi à Paris, qu'on a déjà vu et qu'on vous recommande.
Ouais. Bon, il y a des trucs qui sont communs au groupe, donc qu'on vous retrouvez partout en France. Mais il y a notamment en ce moment un cycle Nolan, encore une fois, Gaumont Pathé. donc, il passe Interstellar, Dunkerque et Inception. Donc, c'est 3 films de Nolan que j'ai adorés. Donc, je vous les conseille... ne serait-ce que pour les revoir si vous les aimez aussi ou pour les découvrir si vous les avez jamais vus. C'est des films qui méritent d'être découverts en salle.
Alors, pour les petits flemmards, je rajouterais juste, pour les flemmards qui ont la flemme d'aller au cinéma, ils sont sur Netflix. Après, c'est pas la même expérience. Hein. Personnellement, quand c'est un beau film, je préfère aller le voir au cinéma. Mais voilà, pour les petits budgets ou pour ceux qui n'ont pas le temps ou les séances qu'on ne cite pas, ils sont sur Netflix.
Ouais, c'est sûr. Il y a aussi 1917. Qui est un de mes coups de cœur de cette année. Joker, que j'avais aussi énormément aimé. Parasite, pareil, tout ça, ces trois-là, c'est des coups de cœur de l'année passée, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait une soirée Titanic qui était prévue la semaine prochaine.
Tu vas craquer.
Donc, je sais pas, on va voir. peut-être que je vais devoir choisir entre Harry Potter et Titanic, donc là, je sais pas ce qui va gagner.
À Paris, en fait, comme à Marseille, on va retrouver 1917, Joker, Parasite, enfin, de manière générale, tous les films récents qui ont bien fonctionné. Si je pense aussi à Once Upon a Time in Hollywood ou encore Bohemian Rhapsody ou un de mes coups de cœur, Green Book, que j'ai vu, j'ai vu sur Canal+ pendant le confinement parce qu'ils ont fait une offre gratuite, ils ont été gratuits en clair pendant quelques semaines et il est passé, donc j'ai été trop contente de pouvoir le voir. Donc vraiment, c'est les films, je pense que beaucoup l'ont vu, mais si vous êtes passé à côté, c'est le moment.
Ouais.
En moins connu, je conseille très très fortement, j'en ai parlé tout à l'heure, Hors Normes. Vraiment un très beau film sur l'inclusion, vraiment très très beau. Puis film français, ça fait du bien aussi quand il y a des films français qui sont films coup de cœur. Pareil, autre film français, La Vie scolaire. Alors ça, c'est mon côté prof... peut-être qu'il a apprécié ce film, mais
j'ai adoré aussi.
Ouais, c'est un très très bon film, pas forcément réaliste sur tout, mais on passe à un très très bon moment et ça reste quand même, il y a quand même pas tant de clichés que ça. Et enfin, t'en as parlé tout à l'heure, Les filles du Dr March, Little Women, qui fait pareil partie de mes coups de cœur de cette année. J'ai vu qu'il repassait à Paris, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez y aller sans souci.
Oui, je confirme, j'ai vu tous les films que tu as cités aussi, et je les ai tous adorés. Donc,
Mais je pense que...
Il y a eu des bons films ces dernières années.
Quand oui, même, c'est ce que j'étais en train de me dire quand je faisais la liste. Et encore, j'en ai enlevé plein, mais il y en avait plein d'autres. Et je me suis dit, oh là là, ouais. Vraiment, on a eu des années riches là récemment.
Et puis plein de styles différents, donc selon vos humeurs, il y a du choix.
Ouais.
Bon, voilà pour ce qui était des films qu'on est allé voir ou revoir en salle. Mais aussi, on ne pouvait pas résister à parler dans ce zapping de notre coup de cœur
de la semaine.
On a toutes les deux dévoré un contenu Disney+.
Oui.
Que j'attendais, mais je ne savais pas qu'il sortait là, en fait. Donc, c'est toi qui m'a dit « Oh, il faut que tu regardes, il est sorti, ça y est !» Et qu'est-ce qui est sorti? Je te laisse nous l'annoncer.
Ah là là, le making-of de La Reine des Neiges 2.
Oui.
C'est sous forme d'une mini-série, donc c'est vraiment sympa à regarder. C'est des épisodes entre 30 et 40 minutes chacun, il y a 6 épisodes, qui suit la dernière année de production de Frozen 2. Et du coup, gros coup de cœur, pareil, j'avais entendu vaguement que ça allait passer. Je ne l'attendais pas spécialement avec impatience, parce que bon, bien que j'ai adoré le film, je me demandais, dans une mini-série, qu'est-ce qu'on allait pouvoir dire, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être rapide. J'avais vu sur Disney+, le documentaire sur l'univers Marvel, comment il a été créé, qui n'était pas palpitant, donc je me suis dit, bon, ok. Et puis finalement, j'ai regardé le premier épisode en voulant bosser en même temps. J'ai pas réussi à bosser, hein. J'ai tout de suite coupé mon ordi et j'étais à fond, vraiment à fond. On découvre tout le processus de production, de réalisation, du coup, d'un film d'animation chez Disney. J'ai appris plein de choses. Je savais pas qu'il y avait des projections de test, je savais pas... c'est ce que tu m'avais dit, l'ordre dans lequel ils font les chansons et ils animent ensuite, ou même au niveau de l'histoire, le fait qu'ils créent les chansons et qu'ensuite, du coup, bon, faudrait qu'on finalise l'histoire, qu'on la modifie un peu pour que ça colle mieux. Enfin, plein de petites choses comme ça où c'était vraiment captivant, hyper intéressant. Au niveau de l'animation, pareil, j'ai appris plein de choses sur, par exemple, le fait que pour une seule scène, ils découpent en plein de plans, que ce soit plein d'animateurs différents et qu'ensuite, eux, ils fassent juste l'animation globale, après il le donne à ceux qui rajoutent la lumière, ensuite il rajoute à ceux qui donnent du volume. Enfin, vraiment, mais j'ai trouvé ça fascinant.
Ouais, moi aussi, j'ai vraiment adoré. Bon, comme j'ai déjà dit, je suis grande animatrice de making-of. Il ne faut pas grand-chose pour que je sois intéressée par les making-of. Mais là, j'ai vraiment adoré la manière dont c'était fait. Je ne m'attendais pas à une série de plusieurs épisodes. Je pensais que ça allait être un... en fait, j'étais surprise même quand j'ai commencé le premier épisode. Je pensais que voilà, ça allait être un truc de 40 minutes et puis que ça sera fini, quoi. Donc, je ne m'attendais pas qu'il y ait 6 épisodes entre 30 et 40 minutes. Et j'ai appris, comme tu as dit, plein de choses. Et j'ai aussi trouvé ça très émouvant. Et c'est ça que j'ai trouvé assez particulier avec cette série de making-of par rapport à ce qu'on peut attendre d'un making-of. C'est qu'il y a plein de moments très forts. On a toutes les deux pleuré comme des madeleines,
oui,
je crois.
Ah, mais pourtant, c'est rare, moi, hein, vraiment. Mais en ce moment, Disney Pixar, ils jouent avec mes émotions, là. Ça va pas du tout.
Ouais. Donc oui, c'était vraiment très émouvant. Et notamment grâce au fait que ça suit vraiment plusieurs personnes à la tête de la réalisation, et notamment le duo de réalisateurs, oui, et réalisatrices, Jennifer Lee et Chris Buck.
Ah mais Jennifer Lee, c'est devenu mon modèle. Hein. Cette nana est incroyable.
Oui, et du coup, ça rappelle, on l'avait rapidement mentionné dans l'épisode en avant, mais Jennifer Lee, en fait, elle est en duo avec Pete Docter, maintenant à la tête des studios Disney Animation. Et donc Jennifer Lee est en charge maintenant tous les longs métrages Disney Animation, en fait.
Ça, c'est génial.
Ouais, c'est génial. Mais donc là, Frozen 2, c'est vraiment son bébé, c'est elle qui le réalise. Mais elle est la directrice créatrice de tous les longs métrages qui vont arriver ces prochaines années, quoi. Et du coup, de découvrir ce personnage qui est maintenant une figure mais centrale, quoi, chez Disney. C'est génial, parce qu'on se rend compte que c'est un personnage hyper, hyper intéressant et très attachant, quoi.
Ouais. Ouais.
Et puis bon, quand même mention Chris Buck, pareil, c'est aussi...
Oui, il est incroyable.
Il est très... Et ce duo marche super bien, quoi.
Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment une ode au travail d'équipe, en fait, à tous ces artistes de l'ombre, comme tu disais... on voit vraiment les animateurs, mais aussi les storyboards. J'ai trouvé ça tellement chouette aussi, tout ce travail sur les storyboards et la composition des chansons, ça t'en a parlé. Mais... Et ouais, moi, j'étais fascinée par tout ce... la manière dont ça décrit le travail d'écriture. C'était vraiment c'était... très surprenant. Et de réécriture aussi. Et, c'est la première fois que je vois autant en détail le processus d'écriture et de réécriture sur un long métrage, que ce soit live ou animation. Quoi. C'est la première fois que je vois autant ces choix, ces ajustements, ces changements de dernière minute. C'était vraiment fascinant. Quoi.
Ouais, non, vraiment, je le recommande fortement. Mais ouais. Je rajouterais juste un truc du coup sur Disney+. Donc vous aurez compris, hein, nos popcorn zapping, on va parler un petit peu de... On va parler du cinéma en majorité, mais après, s'il y a un contenu, que ce soit sur Disney+, sur Netflix, sur OCS, sur Prime, puisqu'on a, on a un peu tout, en fait, à nous deux, ouais. On n'hésitera pas à le faire. La dernière fois, par contre, on a parlé de la semaine gratuite qu'il y avait sur Netflix, sur Disney+, et on se demandait si elle était sur OCS et sur Prime. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Sur Prime Video, donc Amazon Prime, il y a toujours le mois gratuit. Sur OCS... Je crois aussi, de ce que j'ai compris. Alors, je crois que j'hésite entre une semaine ou un mois. Les sources n'étaient pas toujours les mêmes. Donc, bon. En tout cas, il y a une petite période gratuite. Par contre, sur Netflix, ça a été enlevé pendant un quelques temps. Ils l'ont rajouté, mais c'est du satisfait ou remboursé. Donc, on est obligé de payer quand même pour être remboursé après. C'est dû au fait que plein de gens créaient des fausses adresses pour rester en gratuit tout le temps. Voilà. Et voilà. Sur Disney+, c'est enlevé complètement. Il n'y a plus de période d'essai gratuite. Alors il y a plusieurs rumeurs là-dessus, il y en a qui disent que c'est parce que c'était pour la semaine gratuite, c'était pour lancer, pour que les gens aient envie d'essayer et du coup restent accrochés et que maintenant ça sert un peu plus à rien. Et il y en a d'autres qui disent, comme il y a des contenus qui étaient très attendus, bah, notamment le making-of, tu vois, nous on n'était pas hyper au point là-dessus, mais il paraît qu'il était très attendu. Et surtout, ce qui sera l'objet de notre prochain épisode, Hamilton, qui était vraiment hyper attendu chez les fans. Ils avaient peur que beaucoup de gens prennent un abonnement gratuit pour voir Hamilton et ça arrête ensuite. Alors, ce sont des rumeurs. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'existe plus, du coup, la semaine gratuite.
D'accord. Bon, bon à savoir.
Ouais.
Mais ouais. Et petit aparté, on enregistre le jour de la sortie d'Hamilton sur Disney+.
Donc... Oui.
Donc, c'est une aparté transition vers... pour annoncer notre prochain épisode. Bon, on l'annonce depuis l'épisode 0, je crois.
Mais
voilà, le prochain épisode sera consacré à Hamilton. Donc, on va être un petit peu en décalé par rapport à la sortie aujourd'hui, enfin, dans le passé pour vous, quand vous écouterez l'épisode. Mais voilà, pour nous laisser le temps de le voir, de le digérer pour Charline, puisque...
Moi, je ne connais pas du tout.
Ça va être beaucoup, beaucoup d'informations à attraper d'un coup. Donc,
C'est ça.
Mais voilà, ce sera notre prochain épisode dans quelques semaines.
Après, je ne pense pas qu'on soit si en retard que ça. Comme il ne sort qu'en VO sous-titré anglais, beaucoup, beaucoup de gens attendent. Donc, je pense que voilà, on va peut-être donner envie aux gens de le regarder en VO sous-titré anglais. Ou les gens qui voudront le voir plus tard, qui attendront, auront un petit avant-goût dans la partie sans spoiler qu'on fera. Parce que je suppose qu'on fera une partie sans spoiler d'abord. Mais, mais voilà, du coup, on ne sera pas si en retard que ça, je pense, par rapport au visionnage.
Oui. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est là, pour l'instant, il n'est pas accessible pour... Enfin, les non-anglophones, c'est encore un peu
plus compliqué,
quoi.
Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller au cinéma. Et puis, si vous avez d'autres idées, d'autres films à nous conseiller, toujours les mêmes réseaux sociaux que vous connaissez. Merci à tous.
À la prochaine.